La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je m'appelle Nicolas Mahalouf et je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole. Et je me disais, pourquoi pas revoir le début de la lettre aux Galates. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est précieux dans un monde aujourd'hui où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, la contrefaçon du produit d'origine. Je pense notamment aux images qu'on peut voir sur Internet, des images produites par l'intelligence artificielle qui reflètent tellement bien la réalité qu'on croirait presque que l'image est vraie, que c'est une photo originale. Bien, c'est un peu pareil, en fait, avec la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup viennent et annoncent une religion, une croyance qui n'est pas totalement fondée, qui n'est pas vraie. Et en fait, on va voir que le pas totalement vrai, c'est en fait faux. Et ça nous amène à la perte, à la perdition. Ce qui s'écarte un peu de la vérité, c'est finalement pas la vérité. C'est un petit peu les propos de l'apôtre Paul, mais je vous invite tout de suite à lire Galates chapitre 1, des versets 1 à 10. Je vous fais la lecture. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà jusqu'ici notre passage, qui est très intéressant dans notre contexte actuel. Et on voit d'abord dans les premiers versets, Paul, il se présente ici comme apôtre. Apôtre établi non par des hommes, il le précise bien et c'est un peu le cœur de son sujet. Il n'a pas été établi pour porter ce message par un homme, ni par des hommes, par aucun groupement, système humain, mais directement par Dieu qui le lui révèle, qui révèle ce message. Et on se souvient de sa conversion. C'est une conversion stupéfiante où, alors qu'il se dirige vers Damas pour persécuter les chrétiens, le Seigneur lui-même le stoppe, l'aveugle et se révèle à lui finalement. C'est là qu'on peut se rappeler que l'évangile n'est pas une fable, une philosophie habilement conçue par l'intelligence humaine, mais c'est un message puissant qui redirige nos pas, qui est capable de nous briser pour un temps, pour nous relever. C'est un message qui se reçoit, c'est un message plus grand que tout ce qu'on pourront dire les hommes, mais qui est capable d'une vive transformation dans la vie de celui qui reçoit ce message. Et c'est ça, et Paul en est l'illustration, et c'est pour ça qu'il rappelle qu'il n'a pas reçu ça d'un homme, ni de quelques hommes, mais de Dieu lui-même. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre Paul et Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient l'arrêter dans sa folie. On a besoin de se rappeler ça. Parce qu'on trouve, finalement, on trouve beaucoup de choses qu'on établit un petit peu, qu'on élève finalement au rang de Dieu, et qui n'est pas Dieu. Et on pense aux intermédiaires qu'on peut mettre entre Dieu et les hommes, parfois, alors qu'on a un libre accès au trône de la grâce par Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Donc, la phrase suivante, au verset 4, est aussi riche théologiquement. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. C'est exactement le rappel de cet évangile, finalement. Ce n'est pas l'homme qui a volé quelque chose à Dieu ou qui allait chercher quelque chose vers Dieu. C'est au contraire un homme brisé dans ses péchés, incapable de se sauver lui-même, incapable de vouloir Dieu, finalement. Mais c'est exactement de cet homme que Dieu se saisit. C'était exactement des hommes qui se savent misérables et incapables d'aimer Dieu. C'est avec ces hommes-là que Dieu veut faire son œuvre. Il veut transformer les cœurs de ces hommes-là. Quand on est complètement brisé, on réalise qu'on ne peut plus rien, qu'on ne peut rien du tout. On ne peut même pas aimer Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est lui-même qui est venu vers nous. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Qu'est-ce que dit Paul ensuite au verset 6 ? Il s'étonne qu'on se détourne si vite, alors que les Galates se détournent si vite ici, mais c'est tellement nos vies finalement. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite, il parle aux Galates, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Alors quel est le problème ici ? Mais c'est des gens qui se sont immiscés parmi les chrétiens qui sont en Galatie et qui se disent chrétiens, mais qui troublent et qui veulent déformer l'évangile. Ah, il n'y a rien de pire que ça en fait. C'est les gens autour de nous qui se disent chrétiens. C'est même pas des gens qui se disent athées les plus troublants. C'est pas eux les plus troublants. C'est des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont tellement proches du message, tellement proches de ce qu'on pourrait attendre d'un chrétien, qu'on se dit c'est ça. C'est ça. C'est un chrétien modèle. C'est ici un bon reflet de l'évangile, un bon reflet de Jésus. Mais en fait, on peut être complètement à côté de la plaque en mettant notre confiance en de tels hommes, parce que parfois, une petite dérive initiale, si elle n'est pas corrigée, va nous amener très loin de l'évangile. Et peut-être la dérive ici qu'on a, à laquelle on doit faire attention, c'est de ne pas placer notre confiance dans les hommes de Dieu, mais plutôt dans le message qu'ils apportent, et nous-mêmes exercer notre discernement sur ce propre message. Nous pouvons exercer un tel discernement parce que nous avons aujourd'hui la révélation. Sous les yeux, on a la Bible entre les mains aujourd'hui. Il nous est facile d'accéder à la parole de Dieu. Et grâce à cette parole, on peut discerner le vrai du faux. On a l'ultime base pour discerner, et c'est tranchant cette base-là, la parole est tranchante. Elle peut réellement nous aider à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, cette lettre aux Galates nous aide dans ce sens. Et voilà ce qu'il avertit. Versets 8 et 9, hein, Paul, il annonce la couleur du jugement pour ceux qui déforment l'évangile. Vous voyez, c'est tellement grave, parce que de telles personnes qui parlent de Dieu, d'un Dieu, mais en y ajoutant des choses ou en y retranchant des choses à son sujet, c'est finalement tellement grave que Paul va avertir ici solennellement, et par deux fois, je crois, nous pouvons relire, hein, mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, nous vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, première fois qu'il avertit, et ce n'est pas un petit avertissement, hein, d'autres traductions, qu'il soit anathème, hein, qu'il soit maudit. Et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Par deux fois, il exerce son autorité d'apôtre pour discipliner de telles pratiques, de telles personnes, avec une telle dynamique de fausseté. Et voilà la difficulté. Il est en train de dire, il n'y a pas d'autre évangile, et tout ce qui n'est pas tout à fait aligné avec l'évangile est déformation de l'évangile, et donc c'est faux. C'est très important à comprendre, si on ne veut pas tout doucement virer d'un christianisme à un humanisme finalement. Ça ressemble au christianisme, l'humanisme. Mais on a enlevé la substance, on a enlevé le moteur, on a enlevé Christ, en fait. On peut vite oublier Jésus-Christ. On peut vite dégager le roi du royaume et rester dans un simili-royaume, un pseudo-royaume. Ça nous fait penser au royaume, mais il n'y a plus le roi, et ça nous va bien. Et ça, c'est grave. Alors peut-être ce début de l'Épître aux Galates vous fait un peu peur. En tout cas, c'est vif, hein. C'est une des rares lettres où Paul commence sans reconnaissance, mais plutôt directement par un avertissement. Mais c'est dire la gravité du problème ici, en fait, que les Galates vivent dans ce chapitre, dans cette époque de leur vie chrétienne. C'est pour ça qu'il commence fort. Mais je crois que ça peut nous rassurer vivement, en fait. Je pense qu'il faut le lire comme quelque chose de rassurant, puisque si on réfléchit, quel est le véritable ami ? Est-ce que c'est celui qui nous dit tout ce qu'on veut entendre ? Ou est-ce que c'est celui qui est capable de nous dire la vérité au moment où elle peut sauver cette vérité ? Moi, je préfère un ami qui me dit « tu vas dans le mur, tu vas te planter quand c'est nécessaire » qu'un ami qui n'ose pas dire ça de peur de changer mes plans. Un vrai ami est capable de dire les choses, quitte à perdre même la relation, parce qu'il m'aime, pour me sauver de quelque chose de grave. Et je crois que c'est l'indicateur, ici, c'est, on voit Paul comme un ami des Galates, finalement, parce qu'il leur dit la vérité, parce qu'il n'a pas peur de les perdre, pour un temps. Ce qu'il redoute, c'est qu'ils se perdent pour l'éternité loin de Dieu, parce qu'ils auront cru, non pas en Jésus-Christ, qui sauve leur âme, qui les a délivrés de l'actuel monde mauvais, mais parce qu'ils auront cru à un faux Jésus, à quelque chose qui ressemble à Jésus, mais qui ne sauve pas, qui n'a pas de puissance, qui n'a aucune force, qui n'a pas le salut, qui n'est pas salutaire. Et moi, je préfère un ami, et je vous invite à y méditer vraiment. Quels sont les amis autour de vous qui sont capables de vous dire la vérité ? Et qu'est-ce que disent vos amis autour de vous ? Qu'est-ce qu'ils prêchent ? Quel message est au centre de leur vie ? Alors, je vous invite pas à changer tout votre carnet d'adresses, c'est pas ça ici, mais plutôt à vous questionner. Dois-je écouter toujours le conseil de mes amis ? Ou peut-être dois-je revenir à la parole de Dieu, revenir à cette Bible, qui est un peu poussiéreuse parfois, et que je pense être passée de temps, démodée, mais au fond, il y a un message qui ne change pas, et qui est toujours d'actualité, et qui nous aide à discerner le vrai du faux. Je crois que vous voyez ce que je veux dire, et on a tous ce défi. Pour ma part, j'ai ce défi au quotidien, en fait. On écoute, on aime la faveur des hommes, on aime ça. On aime qu'ils nous disent ce qu'on veut entendre. Qui n'aime pas ça ? Mais on sait aussi combien ça peut nous amener des fois à des compromis par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'on croit au fond, par rapport à des choses qu'on sait être vraies. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il rappelle, je trouve que c'est la preuve de son message. Ici, Paul, il dit au verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Et il conclut, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors nous, on a du mal à comprendre cette phrase, mais lui, ça lui a coûté en fait. À son échelle, ça lui a coûté probablement des amitiés. Certains qui n'ont pas été d'accord avec ses enseignements sur Jésus l'ont probablement rejeté. Donc, il y a quelque chose de coûteux dans la foi chrétienne ici, mais il n'a pas l'air de s'en plaindre ici, Paul. Il y a aussi quelque chose de joyeux. Il connaît Christ en intimité, il connaît le Dieu vivant, le Dieu qui lui redonne la vie. Alors qu'il était esclave de ses péchés, esclave de ses pensées, de ses propres pensées, de son auto-justification, eh bien là, il découvre la justice de Dieu parfaite sur ses péchés. Qu'est-ce que c'est ? Un message de joie, c'est un message de liberté, c'est un message de paix. C'est d'ailleurs la paix, la grâce et la paix qu'il souhaite aux Galates ici, qu'il prie pour les Galates. Au verset 3. Donc vous voyez comme ce message peut coûter, mais en fait il peut délivrer en même temps. C'est d'ailleurs pas comparable. On a l'impression qu'il coûte, mais il délivre infiniment plus qu'il ne coûte. j'exprimerais peut-être ça comme ça. En tout cas, je vois la liberté de propos qu'a Paul. Je vois la liberté de vie. Il n'est plus esclave des hommes, mais de Dieu. Il est serviteur du Dieu vivant. Il n'est plus esclave d'un système humain. Mais on voit que ce n'est pas une opposition aux hommes qu'il a, au contraire. Sinon, il se serait réfugié dans une grotte. Il aurait vécu une vie seul dans une grotte, je ne sais pas. Mais au contraire, il a envie de voir les hommes, ses contemporains, se tourner vers la face de Christ et trouver le Dieu vivant, le Dieu joyeux, le Dieu bienheureux. C'est fort. Moi, je trouve que ce début de l'Épître aux Galates est tellement puissant. Ça fait du bien à réentendre parce que vraiment aujourd'hui, on ne comprend plus ce que c'est que le cadeau de Dieu, que la grâce de Dieu. On ne comprend plus ce que c'est que la vérité. Mais là, on a deux thèmes, hein, la grâce de Dieu. On n'ajoute rien au salut de Dieu, finalement. Il n'y a pas d'autre évangile si tu commences à ajouter quelque chose à Jésus-Christ pleinement suffisant pour tes péchés, qui s'est donné lui-même. Ce n'est pas sur ta piété, ce n'est pas sur la grandeur de tes œuvres, mais c'est sur la piété de Christ. C'est sur sa victoire, c'est sur son œuvre à la croix que réside ton salut. C'est le seul fondement véritable. Il n'y en a aucun autre qui sauve. C'est Jésus-Christ seul. Une fois saisi de ce message, tu peux discerner le vrai du faux. Les messages qui ressemblent à l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile, attention, qui sont peut-être plus des philosophies introspectives, où on cherche quelque chose, mais pas en Christ. Donc d'abord, Paul, il reçoit le véritable évangile, puisqu'il est donné par Dieu. Ensuite, il veut demeurer, il veut tenir ferme, persévérer dans l'évangile, en se souvenant que Dieu l'a appelé, alors qu'il n'était pas aimable, il était persécuteur de l'Église. Nous-mêmes, Dieu nous a peut-être appelés dans notre jeunesse, ou il y a quelques mois en arrière peut-être, et nous n'étions pas aimables. Nous étions juste face à nos impuissances, nos incapacités à aimer l'autre. Ou peut-être dans on ne voyait pas de solution à notre problème. Et il nous a délivrés peut-être de ce problème, ou peut-être pas. Mais surtout, on doit se rappeler qu'il nous a délivrés de notre péché. Nous ne sommes plus esclaves de nos péchés. Nous ne sommes plus esclaves du jugement de Dieu, mais esclaves de Christ. Christ a pris sur lui le jugement. Et il a payé notre dette entièrement, une fois pour toutes, à la croix. C'est de ça dont on est esclave. Nous sommes esclaves de la liberté qui est en Christ. Nous sommes libérés de notre dette, du péché. Quel message glorieux, quel évangile. C'est ce message que Paul veut mettre en avant. C'est ce message que Paul veut défendre absolument pour garder intact ce message de l'évangile, que Christ seul nous suffit. Christ seul est pleinement puissant, suffisant pour transformer nos cœurs. Christ seul est suffisant pour payer la dette de nos péchés. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher à Christ. Il n'y a pas à discuter de est-ce que peut-être il aurait pu faire autrement. Non, il s'est donné lui-même pour nous de cette manière-là. Dieu a livré son Fils unique pour nous. Et c'est merveilleux de se rappeler cet évangile et d'y demeurer ferme. C'est ça qui nous motive à ressembler à Dieu de jour après jour. Si je suis accepté seulement par Christ et pas par mes efforts, ça me donne la joie d'obéir à Dieu. Je veux lui ressembler. Et je sais que lorsque je chute, eh bien, je peux ne pas être complètement abattu puisque je reviens à la croix et j'ai le pardon. Et son pardon, c'est lui qui me l'a donné, c'est pas moi. Si je construis à nouveau ce que j'ai détruit, ça fait davantage ressortir ma culpabilité et mon tort, en fin de compte. Alors que si je vais à celui dans la bouche duquel il n'y avait aucune fraude, aucun mot de travers, si je vais faire celui dont le cœur est pur, celui qui est doux et humble de cœur, eh bien, je suis accepté, sans condition. En fait, parce que la condition, il l'a déjà soulevée, c'est la croix, il y a 2000 ans. Donc je peux venir, c'est déjà payé. Ça, c'est le message de l'évangile, les amis. Je trouve ça extraordinaire. C'est ce qui m'a bouleversé il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Et depuis ce jour, je ne vois pas un autre évangile. Je ne vois pas un message comparable. Et pourtant, je suis assez curieux. Mais Il n'y a rien qui comble mon cœur, si ce n'est cette grâce de Dieu faite pour le pécheur qui se repent et qui veut découvrir son Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu de victoire, ce Dieu de pardon. Je vous invite encore à méditer cette bonne nouvelle toute votre semaine durant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu se livrer pour nous humblement, librement, de son plein gré, parce qu'il nous a aimés et qu'il ne pouvait pas nous laisser entrer tels que nous étions à cause de nos péchés dans son royaume. Alors, son amour poussé à l'extrême, c'était de se donner à notre place sur cette croix pour que le péché soit vaincu.
Ça fait plus de 2000 ans, donc on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque, car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien.
Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh.
On imaginait Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'est fait homme sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs, il a goûté à nos joies et nos crèves-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains, pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort. D'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. En revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix. Cette croix, cette croix.
Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce pont entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Cet homme, d'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous, t'y faire remonter pour l'éternité. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle. Venu restaurer l'harmonie brisée. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter.